On va rester aux États-Unis avec Maurice Lemoine. Oui, Maurice Lemoine est aux États-Unis, ça peut paraître extraordinaire. Non, généralement, c'est l'Amérique latine. Mais c'est pour parler des hispaniques et des latinos aux États-Unis.
Oui, c'est les seuls que je comprends aux États-Unis avec mon anglais déplorable. Donc, je suis bien obligé de profiter. C'est un grand reportage de Jean-François Boyer qui vient un peu en ouverture de notre dossier sur les banlieues. On sait que le dossier sur les banlieues est dû, en partie aux derniers événements dans lesquels sont impliqués les jeunes issus de l'immigration. Et donc, on a été voir un petit peu ce qui se passe avec les immigrés ou les descendants d'immigrés ou les fils d'immigrés latino-américains aux États-Unis. Ça nous paraissait une bonne manière de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un phénomène majeur puisque 41 millions d'Américains sont d'origine latino, c'est-à-dire que 14% de la population, c'est la première minorité des États-Unis. La moitié sont nés en dehors des frontières et 65% sont d'origine mexicaine. Alors le reportage de Boyer commence très classiquement dans les grandes plantations, l'agro-industrie de Californie, où on retrouve des Indiens, des indigènes du Mexique, de l'état de Oaxaca, le plus pauvre du Mexique, à côté du Chiapas, qui travaillent dans des conditions absolument déplorables, mais qui gagnent 7 fois plus que ce qu'ils pourraient gagner dans le Oaxaca mexicain. Et puis on découvre que 90% des travailleurs agricoles en Californie sont les Mexicains ou les Centra-Américains sans papier. Donc on tombe sur des problématiques qu'on connaît bien. Et paradoxalement d'ailleurs, il y a très très peu de ce qu'on appelle des déportations par les autorités. C'est-à-dire qu'on a tous en tête ce mur infâme qui a été érigé sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cela étant, une fois que les travailleurs sont dans les plantations, plus personne ne vient les ennuyer. Et là, on les fait travailler, on leur fait suer le burnous. C'est une vieille expression, mais en fait, c'est un peu ça. Alors, évidemment...
Sauf que quand on vous essuie le burnous, on donnait la peine d'y aller.
On y allait, voilà. Maintenant, ils viennent. Alors, évidemment, cette progression du nombre des latino-américains aux États-Unis a inquiété un homme qu'on connaît bien, l'homme du choc des civilisations, Huntington, qui s'inquiète de voir autant de latino-américains aux États-Unis, parce que, d'après lui, et là, je lis, les fondements de la culture anglo-saxonne, de la culture, pardon, anglo-protestante fondatrice, sont la langue anglaise, la chrétienté, une conception anglaise de la prééminence de la loi, la responsabilité des dirigeants, le droit des individus, les valeurs protestantes de l'individualisme, l'éthique du travail et la croyance que les humains ont la capacité et le devoir de créer un paradis sur Terre. Et pour lui, les latino-américains mettent en péril tout cet ensemble, tout ce corpus qui font des anglo-saxons ce qu'ils sont. Alors ça amène, c'est intéressant le papier de Boyer, parce qu'en fait il fait un va-et-vient entre les plus pauvres des latino-américains et puis ceux qui, sans doute, comme les immigrés que nous avons aujourd'hui ici en France, ça s'intègre. Petit à petit, sont intégrés, deviennent des vrais Américains, avec y compris l'American Dream dans la tête. Alors c'est vrai que le côté le plus spectaculaire, c'est le showbiz. On connaît même ici chez nous, on connaît Cheyenne, Jennifer Lopez, Ricky Martin. Bon, ça c'est le côté visible, le showbiz. Mais en même temps, on voit les latino-américains intégrer la classe moyenne, un certain nombre d'entre eux. Devenir conservateur, comme les copains, j'allais dire. C'est-à-dire que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a tendance, par exemple, à abandonner le Parti démocrate pour voter républicain. Et c'est vrai que quand on examine la relativement faible, quand même, représentation politique des latinos dans l'appareil d'État aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a 25 députés sénateurs au Congrès, ce qui est quand même pas énorme, il faut le dire, pour 41 millions de latinos. On a eu, évidemment, le choc de voir le maire de Los Angeles être un latino, c'est un d'origine mexicaine, Antonio Villaraigusa, j'ai du mal à le prononcer. Même en espagnol, j'ai du mal à le prononcer, mais on est lundi matin, c'est difficile. Et puis surtout, il y a deux personnages qui peuvent retenir notre attention, Serge pourra en parler mieux que moi, c'est le ministre de la Justice, Alberto González, et puis celui du Commerce, Carlos Gutiérrez, qui est un ardent défenseur de l'ALCA dont parlait Bernard à l'instant, c'est-à-dire la vision la plus conservatrice, et y compris qui mettrait l'Amérique latine à genoux. Et quant à Alberto González, il appuie la politique de Bush en Irak, il défend Abu Ghraib, Guantanamo, enfin tout ce qu'on veut. Donc on s'aperçoit qu'on peut pas avoir uniquement une image, j'allais dire, misérabiliste du fond des ghettos de l'immigration, mais qu'il y a évidemment une évolution. Cela étant, où l'on retrouve une problématique un peu similaire à la française, c'est quand même la sous-représentation politique, hein, puisque en fait, sur ces 41 millions d'Américains d'origine latino-américaine, seuls 7 millions ont le droit de vote. Et d'après ce qu'on peut observer actuellement, il est vraisemblable que ça ne va pas augmenter d'une manière considérable, parce que la nature de la structure de l'économie américaine ne va plus permettre, en tout cas en ce moment beaucoup plus difficilement, l'accès à la classe moyenne, dans la mesure où elle est basée essentiellement sur les services, l'économie de services qui prime la connaissance, et que donc elle va laisser, et elle laisse en ce moment des marges entières, des masses entières de latino-américains dans les conditions les plus difficiles. Et là on retrouve une problématique qu'on connaît bien dans nos banlieues.